Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Je suis Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 22 janvier, alors que la course aux séries éliminatoires se resserre dans l'Association de l'Est à 3 semaines de la pause de la confrontation des quatre nations. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission. On va faire le tour un petit peu de l'actualité chez les Canadiens de Montréal. On va parler d'un des espoirs, Michael Hage. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission. On va aussi parler un petit peu, faire le tour de l'actualité à travers la Ligue aussi. Là. Donc, c'est ça qui est au menu aujourd'hui dans ce nouvel épisode du balado. Si vous nous écoutez, chers auditeurs, sur le site web de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado qui peuvent exister ou à peu près. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez assurément nous trouver. On est sur, entre autres, là, sur Spotify, sur YouTube, sur Apple aussi. Donc, suivez-nous, hein, abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne rater aucun balado. On amorce l'émission avec mes deux coéquipiers aujourd'hui, si je peux les appeler comme ça. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et JF Chaumont, salut JF.
Bonjour messieurs.
Comment ça va?
Ça va, mais j'ai pas encore beaucoup parlé ce matin, donc je vais avoir besoin de... d'user ma voix un petit peu.
Ouais, on est mercredi matin, vous étiez au centre
de la Ben oui, c'est une voix spectaculaire ce matin, Chaumont.
C'est un matin sans mes cocottes, donc un matin où je pouvais dormir un peu. Première personne à qui j'ai parlé, c'est Guillaume Lepage, qui, encore une fois, n'était pas de bonne humeur, donc j'ai pas eu le temps de parler beaucoup.
C'est parce qu'on se prévoit à 1h, 9h30, à 9h27, alors que je suis en train de faire mon café. On m'appelle pour me stresser parce que là... faut que je me connecte. Mais moi, 9h30, c'est 9h30, c'est pas 9h27. Fait que là, ça m'a stressé. J'avais pas pris ma première gorgée de café, mais là, c'est
facile,
fait.
Pas facile.
Là, tout va bien.
Une bonne princesse. Hey, les gars, vous étiez au Centre Bell les deux hier pour la victoire. Écoute, une autre victoire des Canadiens. Un autre match où on est revenu de l'arrière pour l'emporter. C'était contre le Lightning de Tampa Bay. Hier, victoire de 3-2. On y prend un goût là, chez les Canadiens. Vraiment, là, ça commence à être difficile de ne pas y croire. Ce matin, on se réveille, on est en séries éliminatoires. Si ça s'amorçait immédiatement, je veux dire, il se passe quoi? Vous étiez dans le vestiaire après, vous avez parlé aux joueurs, tout ça. Là. À quel point cette équipe-là commence réellement à y croire à ce qui se passe? Là? C'est pas juste... là. Il y a quelques semaines, on nous disait « Ah, on commence peut-être à regarder le classement. » Mais là, le classement, là, on l'affiche pas dans le vestiaire, mais c'est tout comme avec les cellulaires et tout ça là, aujourd'hui. Là, les médias sociaux et les téléphones intelligents, c'est le mot que je cherchais.
Ben, y a Martin Saint-Louis qui garde un petit peu le pied sur le frein par rapport au classement. Ça, c'est la sagesse d'un coach en disant ça sert à rien pour l'instant, après 47 matchs, de se dire « Bon, ben bravo les gars, on a une place en série. » Ils diront « Bravo les gars, on a une place en série après 82 matchs, pas après 47. » Écoute, le dicton qui revient de ce temps-ci, c'est « Apprendre à gagner ». Mais ça commence à être plus qu'apprendre à gagner. C'est « Apprendre à gagner de multiples façons ». Jamais avec les mêmes acteurs, le premier trio, le deuxième, Lane Hudson, Montembeau, Dobesch, donc ça vient d'un peu partout. Hier, c'est Jake Evans qui marque le but vainqueur sur une passe de Yoel Armia, les joueurs du quatrième trio. Il y a vraiment une énergie qui est contagieuse. Cette équipe-là aussi refuse de baisser les bras. Et souvent, on a le vieux réflexe, Guillaume puis moi, on jase pendant le match, on se dit « bon, 2-0, OK ». C'est peut-être à ce moment-ci que ça va craquer. Ce soir, il n'y aura pas de remontée.
Hier, c'est le bon Sean Farrell, notre collègue anglophone, qui, après la première période, après le deuxième but, m'a dit « Il n'y aura pas de comeback ce soir. Oh. » J'ai dit « Non, il n'y en aura pas, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui fonctionnait. » Puis je passe 5 minutes après, c'était 2-2. Fait que c'est
ouais,
ça.
C'est un petit but. Juraj Slafkovský en supériorité numérique là, qui trouve un mini-trou dans l'armure d'André Vasilevskiy. Puis ça, c'est un but qui n'a pas trop plu à l'état-major du Lightning. Là, des fois, il y a des petites confidences qui se font dans un urinoir quand tu croises quelqu'un d'une autre équipe. Mais ça, c'est un autre sujet. On n'était pas content de ce but. On disait que ça a réveillé le Lightning. Pas le Lightning, mais le Canadien.
Puis, j'écoutais hier Marc-Denis RDS, puis il en parlait, puis il disait... Vasilevski, cette année, donne un mauvais but très fréquemment.
Ouais.
Ce qui n'a pas été le classique Vasilevski depuis le début de sa carrière, mais c'est un gardien qui, écoute, il vieillit. Il a gardé tellement de matchs dans les dernières années. Il est passé sous le bistouri aussi. Tu sais, le Vasilevski des belles années, je suis pas en train de dire qu'il est parti, mais il va en avoir de plus en plus là, des petits trous dans son armure.
Non, non, puis on parle de Vasilevski des belles années, mais t'as Michael et Simon. Ça, c'est seulement un joueur, c'est pas Michel et Simon. Michael et Simon qui patinaient au sein d'un deuxième trio. T'as Darren Radish qui était première paire avec Victor Hedman. T'avais Maxell Crozier sur la deuxième paire avec Ryan McDonough. Le Lightning n'est peut-être plus non plus la super puissance qu'elle a déjà été. Mais bon, on s'en fâchera pas trop longtemps sur le Lightning. Mais ce qu'il faut dire aussi, il y a plusieurs statistiques intéressantes depuis la séquence irrésistible du Canadien. Là, c'est 17 matchs où le CH trône au sommet de la Ligue nationale. Mais moi, une statistique qui a frappé mon œil hier, c'est quand le Canadien accorde le premier but au cours de cette séquence, ils ont signé 8 victoires contre seulement 2 défaites.
C'est comment, tu peux pas tenir ça là, à long terme. Là.
Ben, est-ce que ça fait longtemps c'est... qu'on dit que ça peut pas tenir à long terme. Nick, tu sais, si on recule depuis la fameuse victoire là, à Buffalo, où ça avait été un festival offensif, le Canadien venait de perdre 6 matchs d'affilée, se présente à Buffalo, finissent par gagner un match 7-5. Mais depuis cette date-là, c'est 20 victoires, 10 défaites et 2 revers en prolongation. Donc, c'est la 6e meilleure fiche de la Ligue nationale depuis le 11 novembre. Là, on ne parle pas seulement depuis le 17 décembre. Donc, est-ce qu'ils vont maintenir un rythme de 700 d'ici la fin de l'année? Je pense pas. Mais c'est une équipe. Tu sais, la boule de neige, la confiance, là, elle commence à être grosse.
Mais c'est ça, je veux dire. Ce que je veux dire, parce que ça ne peut pas tenir, c'est pas nécessairement si on regarde dans le passé et on se dit ça ne va pas tenir, mais 8 victoires sur 10 quand on tire de l'arrière, il y a comme un équilibre. Oui, ça montre que l'équipe a énormément de caractère, mais d'un autre côté, à un moment donné, tu ne pourras pas toujours venir. Même les meilleures équipes ne réussissent pas à revenir 8 fois sur 10 habituellement. Ça, est-ce que c'est un point un peu d'inquiétude pour Martin Saint-Louis de faire « ça nous prend le momentum plus rapidement que ça dans le match? »
Moi, ce que je trouve, ce qui commence peut-être à être inquiétant, je le mets en guillemets, là, c'est que dans les derniers matchs, on voit certaines séquences où le Canadien a peut-être un peu plus de relâchement. T'sais, hier, le début de match, la première période, honnêtement, le Lightning a complètement dominé. Si Samuel Montembeault ne fait pas quelques arrêts de plus, on a peut-être un 3-0 après une période. Contre Toronto, on l'a vu, là, après les 3 buts du Canadien, ben, il y a eu un gros relâchement, puis il y a eu certaines séquences défensives où on s'est regardé et on s'est dit « OK, ça ressemblait au mois de novembre. » Là, t'sais, des joueurs qui sont pas totalement là, qui oublient des couvertures comme ça. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fatigue aussi qui commence à s'installer parce que là, on est dans une course effrénée. Tu l'as dit, on regarde le classement à chaque match parce que ça bouge tellement. Puis tu peux pas te permettre d'en perdre 2 de suite parce que tu vas te sortir un peu de cette course-là. Il y a une fatigue mentale qui s'installe. Puis hier, le Canadien jouait son 13e match sur 25 en 25 soirs. Il y en a dans ces 13 matchs-là, il y en a joué 8 à l'étranger. C'est une séquence assez intense. Puis je pense qu'on commence peut-être à avoir certains petits relâchements. Puis ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'attendre
à ce que...
Le Lightning jouait son 14e match en 25 soirs hier, 8 à l'étranger aussi. Donc, c'est à peu près la même séquence que le Canadien. Tout ça parce que on le sait, il y a la confrontation des 4 nations qui s'en vient. On dirait que le calendrier est un peu compressé par les temps qui courent.
Pas un peu.
Beaucoup. mais non, c'est ça. Je pense que... ma seule inquiétude, je pense pas que ça a été verbalisé du côté du Canadien, mais c'est que par séquence, on voit un petit peu de relâchement, puis ça, c'est clairement le résultat de la fatigue. Est-ce que ça va tenir jusqu'aux 4 nations, jusqu'au 12 février, à la pause d'une semaine, qui va faire le plus grand bien à cette équipe-là? Ben, il faut le souhaiter parce que si le Canadien sera à la confrontation des 4 nations encore dans la course, ben là, on obtient une semaine de congé. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont sur leurs équipes respectives. On a Lainé, Armia puis Samuel Montembeault qui pourraient être le troisième gardien, deuxième, peu importe. Donc, ça serait une semaine très bénéfique pour le Canadien, mais faut se rendre là. T'sais. Il en reste trois. Est-ce que ça va tenir le coup? Ben, à suivre.
Ouais. Ce qui est positif, par contre, des Canadiens, bon, jeudi, on est à Détroit, mais par la suite, trois matchs consécutifs. Donc, on va avoir presque une semaine complète à la maison. Juste ça va peut-être aider. Tu joues quand même, là, mais ça aide à recharger les batteries par rapport au fameux voyage de quatre fuseaux horaires qu'on a eu au début du mois de janvier, fin décembre, début janvier. Ça, il y a du positif. L'autre chose qui est positive aussi, Juraj Slafkovský, bon, a marqué un but hier, commence lentement un peu Slafkovský à s'allumer, pas mal au même moment que l'année dernière. On se souvient que l'année dernière, ça avait été très lent comme départ. Puis il s'est mis un peu vraiment à vraiment mieux jouer à partir de ce moment-là de la saison. C'est-tu juste déjà un Slafkovský? C'est un vieux moteur diesel qui prend un peu de temps à partir, mais une fois que c'est parti, c'est le cas. Est-ce que lui-même constate ces succès-là, Guillaume?
Ouais, ben je suis allé le voir dans le vestiaire hier après le match. Puis Slafkovský est toujours très, très critique à l'égard de ses propres performances. Là.
Et très imagé aussi.
Oui, il est un peu canon lousse, on aime ça, honnêtement, c'est divertissant, mais hier, il dit oui, ça s'en vient mieux, mais il dit c'est pas encore au standard, puis là, il commence à divaguer, puis il dit je regarde mes matchs en début de saison, il dit j'étais tellement tanné de courir partout sur la glace sans rien faire, il dit là, je suis juste content de faire quelque chose sur la glace, puis il dit je regarde mes vieux matchs, puis ça me donne envie de vomir. Puis en tout cas, il y en a beurré épais. Mais tout ça pour dire que
vomi,
hier.
Le vomi est populaire chez les Canadiens cette année. Parce que Martin Saint-Louis aussi a utilisé.
De très belles images du côté du Canadien. Mais on comprend ça. Mais on comprend facilement ce qu'ils veulent dire.
C'est ça. On aime ça. C'est clair, c'est précis.
C'est ça.
N'a pas la cassette.
Mais tu sais, Slafkovský, hier, c'est un but, un troisième en quatre matchs, mais c'est aussi quatre tirs, trois mises en échec. Ça a été un des attaquants les plus impliqués là, du côté des Canadiens. Fait que je pense que ça, c'est encourageant. Quand tu vois le jeune qui s'implique de cette façon-là, c'est aussi ce qu'on voyait l'année passée à la fin de la saison. Tu sais, je pense que quand il est présent physiquement, quand il s'implique le long des rampes, qu'il gagne ses batailles, ben ça, peut-être que ça le nourrit un peu pour le reste de sa game. T'sais. Il fonce plus au filet, il est plus en confiance. Je pense que c'est une boule de neige qui déboule. Fait que c'est positionnant. Je sais pas si c'était... L'effet boule de neige, l'effet ça boule fait de sentir neige. Du côté de Slafkovský, c'est certain. Donc, pour moi, c'est encourageant. Puis, t'sais, il a lancé la blague, il est rendu à 7 buts. Il dit si ça continue comme ça, je vais pouvoir en avoir 20. Là. Puis le collègue Arpin Basu, il a dit est-ce que tu as le même boni que l'an dernier à 20 buts? Puis il l'a regardé, puis il a dit oh yeah. Je pense qu'il y a une certaine motivation. Il dit pour vrai, là, sa priorité, c'est clairement l'équipe, puis il veut participer aux séries. Il dit j'ai été le premier à aller voir le classement sur mon téléphone en rentrant dans le vestiaire, mais. Il y a aussi ce petit incitatif-là, peut-être à 20 buts, qui va le motiver d'ici la fin de la saison. Donc, s'il sera à 20, honnêtement, je pense qu'on peut croire aux chances du Canadien parce que c'est quand même 13 buts sur le reste des matchs. Ça va être une bonne production. Puis je pense que le Canadien peut s'en servir.
On a parlé un petit peu tantôt du match contre Toronto. On menait 3-0 chez les Canadiens. On permet 7 buts consécutifs. Une mornif, comme on dit dans le bon jargon. Est-ce que cette claque-là peut avoir vraiment des effets positifs à long terme? On a rebondi le lendemain en allant chercher une victoire à domicile contre les Rangers. Une belle victoire où encore là, on est venu de l'arrière pour l'emporter. Est-ce que ce match-là, au milieu d'une séquence de succès, une claque comme ça, ça peut te remettre, juste te replacer un petit peu sur le droit chemin?
Mais peut-être une claque pour Samuel Montembeault, qui lui, un peu à l'image de Slafkovský, Montembeault avait été très, très critique de sa propre performance après la rencontre en disant « Ah, j'ai peut-être le sentiment d'abandonner mes coéquipiers en troisième période, c'était à moi de bloquer les tirs, d'être plus solide ». Lui, Montembeault, il n'avait pas eu la chance de jouer le match dès le lendemain. C'était Jacob Dobesch qui avait le départ contre les Rangers. Donc, il a eu peut-être à y penser un petit peu plus longtemps, cette défaite. Elle a peut-être fait mal au cœur. mardi soir contre le Lightning de Tampa Bay, Samuel Montembeault était le meilleur joueur sur la glace. Donc déjà là, c'est un positif de voir un joueur qui se ressaisit, qui lance aux poubelles rapidement une mauvaise performance. Nick, tu as utilisé le terme mornif. Mornif en termes de pointage final, 7-3, mais pas tant une mornif pour le test de l'œil, pour reprendre une expression de Martin Saint-Louis. Mm-hmm. Joseph Wall a quand même été très bon. Cole Caulfield, à lui seul, je pense que c'était 10 tirs contre les Maple Leafs. Le CH avait quand même obtenu plusieurs chances de marquer. Il y avait vraiment beaucoup d'ambiance dans la cabane quand Montréal menait 3-0 contre les Maple Leafs. Mais au premier but, on a senti peut-être, sans dire un relâchement, mais les Leafs gagnaient en confiance. C'était le contraire du côté du CH. Et chaque fois que le CH avait des chances de marquer, bien, Wall réussissait un petit miracle ou bon, un arrêt spectaculaire. Je crois pas que c'était une rencontre qui était tant que ça à sens unique, mais de temps en temps, dans une séquence où tout va bien, ça peut effectivement, sans dire faire du bien, mais ça peut permettre aux joueurs de se parler. Puis j'aime beaucoup aussi l'aspect terre-à-terre de Saint-Louis qui dit « On doit toujours continuer de s'évaluer et même regarder ce qu'on fait de mal dans des séquences victorieuses. » Prenez l'exemple hier contre le Lightning en disant « On termine le match avec 2 points, mais si on est réaliste et si on regarde notre performance, c'était peut-être un B. C'était loin d'être un A, mais on a réussi à gagner avec un B. Mais il faut revenir à des matchs où le Canadien va sortir l'expression anglophone, le A-game. Donc, voyons voir. C'est une équipe, moi, je trouve, qui reste en contrôle de ses émotions. Puis même si les joueurs commencent à dire « on regarde le classement », ils savent très bien là, que c'est loin de mission accomplie.
Parlons-en du classement. Bon, on se réveille ce matin, mercredi. Canadien, 52 points, égalité avec les Sénateurs d'Ottawa. Bon, qui semble posséder le bris d'égalité. Mais bon, les deux équipes de repêchés, 4e as, qui sont à égalité. Mais soudainement, c'est plus juste le 4e as là, qu'on regarde là, chez les Canadiens. C'est le Lightning de Tampa Bay. C'est la 3e place dans la section atlantique. On n'aurait pas dit ça il y a quelques semaines seulement. Si on remonte, les Bruins de Boston qui ont perdu 7 de leurs 10 derniers matchs, t'sais, ça commence à être inquiétant pour eux autres parce que la course, elle est extrêmement serrée. Puis les Sénateurs, les Canadiens, c'est deux équipes qui sont dans... C'est deux équipes jeunes, contrairement aux Bruins qui sont plus vieux, contrairement aux Lightning qui sont plus vieux. On parlait du calendrier condensé tantôt. Pensez-vous que les jeunes jambes des Sénateurs, qui ont mangé une bonne claque, eux autres aussi hier du côté de New York, là, mais quand même, qui jouent très bien récemment, les jeunes jambes des Canadiens, est-ce que c'est un avantage dans un type de calendrier comme cette année?
Ben, probablement. Il y a aussi le fait que tu regardes de plus en plus ce qu'on parle la formation des Canadiens et celle des Bruins. Peut-être que tu as plus de profondeur finalement du côté du Canadien, surtout la façon dont tout le monde joue en ce moment. Là, on parle beaucoup du trio de Jake Evans qui est tout feu tout flamme. Encore hier, c'est lui qui marque le but gagnant. Mais on en parlait en début de saison. Les Bruins sont, oui, on les place en série parce que c'est une équipe qui a réussi à se maintenir au fil des années malgré les nombreuses pertes de joueurs de grand talent là-bas. Mais cette année, je pense que c'est en train de les rattraper. Tu regardes un peu cette formation-là. On pensait que l'arrivée de Lindholm, l'arrivée de Zadorov, ça allait leur permettre de se maintenir à flot, mais c'est peut-être pas suffisant. Oui, la jeunesse, l'énergie peut-être, mais j'ai l'impression qu'au niveau vraiment de la profondeur, du talent de cette équipe-là, parce que là, on regarde du côté du Canadien, les jeunes sont à peu près tous en progression. On a ajouté un Lane Hudson qui a un impact direct, tout ça. Donc, je pense que faut peut-être creuser un peu plus loin que seulement l'énergie. Là, quand vient le temps de comparer ces deux équipes-là, il y en a peut-être une qui est en train de prendre l'ascendant là, sur l'autre. Puis je pense que le Canadien est dans la position du conducteur en ce moment.
En plus que les Bruins ont perdu Charlie McAvoy, donc durée indéterminée, là, mais bon, ça ne vient pas aider assurément.
Puis tu sais, là-bas, tu compares un peu avec la situation. T'as le DG qui a dit il y a quelques semaines, ou le DG ou le président, c'était-tu Cam Neely qui a dit, c'est ça qui a dit, on va regarder, on va être rendu où à la date limite. Puis tu sais, il a ouvert la porte peut-être à une restructuration ou une... je n'ai pas dit rebuild, là, mais tu sais, de restructurer un peu cette équipe-là. Donc, on n'est pas sur la même pente. Là. Le Canadien est en train de monter, puis les Bruins, je pense, sont sur la pente descendante, puis on est en train de se poser des questions sur l'orientation à prendre pour les prochaines semaines, mois, années. Là.
Mais ouais, il y a peut-être un petit changement de la garde aussi au niveau de la division Atlantique. Avant le match mardi, on en parlait avec John Cooper. Puis Cooper était assez réaliste en disant depuis 4-5 ans, il y a plus ou moins d'enjeux dans l'Atlantique. On connaissait les quatre équipes qui participaient aux séries. La Floride, Tampa, Boston, Toronto. Puis on savait qu'il y avait des équipes qui, tôt ou tard, deviendraient aspirantes. Bon, probablement, sans les mentionner, il faisait allusion aux Sabres, aux Red Wings, aux Canadiens, aux Sénateurs. Mais on dirait que c'est peut-être cette année où, justement, les Canadiens, les Sénateurs, même les Red Wings restent dans le coup, décident de chauffer les canons du passé.
On attendait même les Sabres là-dedans.
Bon, les Sabres
aussi,
mais bon.
Qui lèvent pas.
Une reconstruction éternelle, mais... Veux pas, si tu veux te maintenir au sommet, c'est pendant des années, tu sacrifies des choix de premier tour, tu sacrifies des espoirs. Le Lightning l'a fait, les Bruins l'ont fait. Guillaume parlait de profondeur tantôt, mais tu commences à en subir les contre-coups après 3-4 ans. Il manque un petit peu de gaz. Puis oui, il pourrait y avoir des changements. Moi, je vois mal les Bruins réaliser là, un gros tournant d'ici les prochaines semaines. Ils ont déjà sacrifié Jim Montgomery. Et où l'autre potion magique pour essayer de réveiller cette équipe-là? J'ai des doutes et des réserves avec les Bruins.
Surtout que durant la saison morte, je pense qu'on a donné le dernier coup là, pour tenter de rester dans le coup, là, pour en aller chercher Lennon et Zadorov. Lennon était déjà sur la pente descendante, donc on disait qu'on essayait de recréer un peu la magie que Patrice Bergeron amenait, mais je pense pas. Puis là, c'est 7 ans, Yass Lennon, donc... Je sais pas ce que ça va être comme la restructuration que tu parlais, Guillaume, mais il y a des morceaux qui pourront pas être bougés dans cette restructuration-là. C'est pas mal certain. Canadiens qui vont être à Détroit, j'en parlais tantôt jeudi, les Red Wings qui viennent perdre leurs 3 derniers matchs, qui ont 4 défaites en 5 matchs, qui sont lentement mais sûrement en train de prendre du recul dans la course aux séries éliminatoires. Donc ça va être à suivre. Par la suite, comme je disais, 3 matchs consécutifs à la maison. Donc on va surveiller tout ça. En parlant de Détroit, Guillaume, tu as passé par Détroit la semaine dernière, ce week-end dernier, quand est-ce que tu as passé par Détroit?
De jeudi dernier à samedi.
Bon, ouais. Tu es allé visiter la belle région du Michigan. Tu as passé tout droit à Détroit pour te rendre à Ann Arbor, qui est quoi, 40 minutes à peu près à l'extérieur de Détroit?
Ouais,
à peu près. C'est là que se situe...
Guillaume passait par Windsor. Parce que des fois, c'est bon d'avoir un vieux collègue qui a trop souvent voyagé. Ben, je me souviens, le jeune Guillaume qui peut t'appeler le matin ou déjà quand le téléphone sonne à 9h, il y a de l'air bête. Mais là, les billets d'avion, c'est beaucoup trop cher pour Détroit. Je pense que je vais annuler le projet.
1 200 $ pour voler de Montréal à Détroit.
Ça, c'est. On parle pas d'aller à Prague, on parle d'aller à Détroit. Non. Donc là, Guillaume disait, bon, ben, on va oublier le projet. Mais là, le vieux à l'autre bout du fil lui a dit Windsor. Il y a un aéroport. Puis Windsor, oui, et c'est littéralement l'aéroport de Windsor, point de vue géographique, là, t'es plus près du centre-ville de Détroit que l'aéroport de Détroit. Donc, puis Windsor avait des prix beaucoup plus abordables. Donc, Gary, toute la ligue, probablement une étoile au cahier de Guillaume, parce que le billet a été acheté à un prix raisonnable pour aller voir Michael Hitch. Mais vas-y, Nick.
Moi qui pensais que tu aurais pris ton auto pour te rendre là et emprunter le nouveau pont Gordie Howe, hein, mais non, Guillaume qui a pris.
C'est quand même loin. C'est un bon.
C'est long. Honnêtement, la 401, là, j'en parlais un moment donné avec. Je pense que c'est avec Mike Zeisberger, là, qui est notre collègue à NHL.com.
Non, c'est épouvantable.
La 401, c'est la route la plus plate, mais je vais vous relancer. Là. Moi, à un moment donné, j'ai fait un trip de hockey, de baseball, puis on est remonté. On est descendu à Pittsburgh, on est remonté par Détroit après ça, aller voir du baseball. Et là, on vient vers le Québec. Et je dis à ma conjointe, Marie-Pierre, que je salue, je lui dis, mets le GPS, on est centre-ville Détroit. Le Comerica Park, le stade des Tigers.
Le stade des Tigers.
Alors, on n'est pas loin là, de la frontière canadienne à ce moment-là. Là. T'as un pont ou un tunnel à traverser. C'est ça. Et là, on roule. Puis là, c'est elle qui a le GPS, mais elle ne regarde pas vraiment. Puis là, je vois 8 Mile Road, mais là, je me dis, j'ai vu le film, là. Tu commences à être loin du centre-ville un peu, là. Puis là, attends une minute, là. Et là, je prends mon téléphone, puis je regarde. Et le GPS, à cause du trafic, nous a fait faire un détour de 100 km pour traverser, mesdames, messieurs, à Port Huron, Sarnia, au lac Huron, au sommet, là, tu remontes. Là, ma conjointe, elle retourne de bord. Je dis, ben non. Je dis, malheureusement, on roule. Fait qu'on se rend jusqu'à Sarnia, arrive au traverser là, il y a un pont, arrive à la frontière. Je croise le douanier. Douanier, bon, il dit bonjour, hi, ou plutôt hi, bonjour. Dans ce coin-là, il est à l'envers, là, bonjour, hi. Fait que je lui réponds en français. Il dit, ah, je vais vous trouver quelqu'un. Je dis, non, c'est beau, je vais te parler en anglais. Et là, il me dit, vous arrivez de où? Je dis, ben, on est allé voir. Nous, on avait été voir Lightning contre les Pingouins en 2016 en séries éliminatoires en demi-finale. Je dis, on est allé voir le match de Pittsburgh, puis on est revenu après ça pour aller voir les Tigers. On avait été voir les Pirates aussi. Il me dit, fait que là, c'est un douanier, tu t'attends à un certain décorum. Avez-vous dans votre auto nourriture, armes, munitions, tout ça? Et sa réponse, en m'entendant, c'est quoi le prix des billets à Pittsburgh? Il dit, parce que moi, j'ai des billets pour les Red Wings, des billets de saison, dans le bol en bas, mais là, c'est au Joe Louis Arena. Je dis, ouais, vous allez avoir une nouvelle arena. Ouais, mais c'est ça, là, mes billets vont être plus hauts. Ça te coûte combien à Pittsburgh? Non, mais comment ça me remet?
Honnêtement, alors,
j'ai parlé pendant 5 minutes de hockey avec le douanier, ouais. Qui finalement m'a tout simplement dit, bonne journée, puis qui m'a laissé partir.
Mais honnêtement, ça a dû arriver souvent à GF aussi, là, mais ouais, quand on voyage pour la Ligue, puis ils nous demandent qu'est-ce que tu vas faire, puis on dit, je vais couvrir la finale de la Coupe Stanley ou peu importe, souvent ça dérape sur une discussion de hockey pour. Puis tu sais, tant mieux, là, j'aime mieux qu'un douanier bête qui va te poser 800 questions.
Qui te fait visiter une petite salle, puis.
Ouais, c'est ça. Ça m'est jamais arrivé.
C'est ça. Finalement, t'as moins de vêtements en sortant qu'en rentrant. Mais tout ça pour dire, si vous pensez que la 401 est plate, la 402 de Sarnia jusqu'à London, c'est des champs et des éoliennes. C'est tout ce qu'il y a dans ce coin-là. Faites pas ça, OK? Rendez-vous jusqu'à Windsor parce que la 402, c'est difficile. Bon, on revient à nos moutons, Guillaume. Donc, Détroit pour te rendre à Ann Arbor pour aller voir l'Université du Michigan, les Wolverines, et Michael Age, l'espoir, premier choix. Choix de première ronde, devrais-je dire, des Canadiens l'année dernière, qui parfait son apprentissage du côté de l'équipe. Un gros programme Michigan, mais qui est peut-être cette année beaucoup moins beaucoup moins redoutable cette année. Ce qui fait que Age se retrouve dans un rôle qui est peut-être différent du rôle qu'il aurait eu s'il est arrivé l'année dernière ou s'il est allé à une autre université, Boston College, par exemple, qui est une des puissances. Comment il prend ça? Comment ça se passe pour lui jusqu'à présent à l'université?
Ben lui, il se plaint pas du tout d'avoir plus de responsabilités. Là, c'est vraiment, son entraîneur me disait, on le place dans toutes les situations. Les deux ont eu une discussion avant le début de la saison, puis c'était comme, on a perdu, le Michigan a perdu 4 de ses 5 attaquants les plus productifs qui ont tous signé des contrats avec les pros à la fin de la dernière saison. Donc, il dit, on va avoir besoin que quelqu'un se lève puis prenne le relais. Puis Michael Age est l'un de ceux-là. Avant la fin de semaine, menait tous les joueurs de première année de la NCAA au chapitre des points, même devant James Higgins. Mais là, après la fin de semaine, Higgins a repris le dessus. Mais Michael Age se plaît beaucoup à Michigan, même s'il n'y a pas nécessairement le soutien optimal autour de lui. Il apprend tranquillement à justement être le meneur offensif d'une équipe, puis à vivre avec cette étiquette-là, à vivre avec cette pression-là. J'ai croisé aussi Rob Ramage, le directeur du développement des joueurs du Canadien qui était sur place, qui est allé souper avec Michael Age avant ses matchs à la fin de semaine. Puis il me disait, tu sais, c'est zéro un désavantage, le fait qu'il n'y ait pas le soutien autour de lui. On aime ça le voir évoluer rapidement dans des situations où il y a de la pression, où il doit mener cette équipe-là offensivement. Donc, très positif de ce que j'ai recueilli comme commentaire. Mais encore une fois, son entraîneur me disait, en deuxième moitié, c'est là que les choses vont se compliquer parce que Michael Age va devenir un joueur marqué. Les autres équipes, il dit, tu sais, le plan de match de l'autre équipe, c'est pas par rapport à notre deuxième, troisième trio. Il dit, c'est lui.
C'est lui.
C'est Michael Age. Donc tu sais, puis je pense qu'il y en a eu un avant-goût là, cette fin de semaine. Il y avait un duel dos à dos contre Michigan State University, qui est le grand rival de l'État. Puis Michigan State est au premier rang aux États-Unis dans la NCAA. C'est l'équipe à battre. Michigan qui a réussi à soutirer une victoire en prolongation vendredi, mais qui a perdu samedi. Mais tu sais, on l'a vu, là, c'était plus compliqué pour Michael Hage. Il n'y avait pas l'espace nécessairement. On le couvrait vraiment de façon assidue. Fait que ça va être en deuxième moitié. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il va répondre à tout ça, puis s'il va être capable d'élever son niveau de jeu. Son entraîneur disait qu'il avait pleinement confiance, là, qu'il pouvait en prendre plus encore.
Comment, tu sais, quand tu le regardes jouer, c'est comme tu disais, ça va super bien, mais ça va devenir plus compliqué. C'est quoi les prochaines étapes pour lui pour passer au niveau supérieur, Ligue américaine? On discutera tantôt si ça sera cette année ou la prochaine année, mais qu'est-ce que, ça donne bien que tu as croisé Rob Ramage aussi, parce qu'il est pas mal celui qui a la bonne réponse dans ce dossier-là, mais qu'est-ce que ce joueur-là doit faire pour passer au prochain niveau?
On m'a beaucoup parlé de sa maturité physique. C'est un gars qui est capable de bien se débrouiller pour l'instant contre des joueurs de 22, 23, 24 ans. Mais son entraîneur m'a fait rire parce qu'il dit Michael Hage, quand il retire ses épaulettes, c'est encore un garçon. Là, ouais. Il est grand, je pense 6 pieds 1, 6 pieds 2, 190 livres, mais on dirait tu le regardes, puis c'est pas un gars qui...
Il y a de l'espace,
il y a 18 ans,
c'est ça.
Il y a 18 ans, là, c'est pas un bloc de béton. Là. Je pense que Rob Ramage le comparait à un livrier, là, un greyhound,
ouais.
Un peu laid.
Les courses oui, c'est pas un beau chien, un greyhound, mais les courses, je pense, les courses qu'on voit, là, les courses de chiens en hippodrome, là, c'est ce
ouais,
chien-là.
Quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est un chien qui est vraiment élancé. Donc, il dit, tu sais, il faut qu'il prenne la maturité physique, puis ça, c'est le temps qu'il va faire son œuvre. Donc, je pense que c'est le gros point pour lui. Puis évidemment, ben, apprendre à jouer avec et sans la rondelle, c'est le même refrain pour chaque espoir. Donc, on va voir si bon, va remplir peut-être ses 6 pieds 2 un peu plus d'ici la fin de la saison. Dans la NCAA, on le sait, il y a beaucoup de temps consacré à l'entraînement en gymnase, beaucoup de temps consacré à l'entraînement sur glace. Donc, c'est peut-être un bon environnement justement pour lui pour prendre cette maturité physique-là un peu plus rapidement que s'il évoluait peut-être dans la Ligue canadienne.
T'as parlé avec Age puis avec son entraîneur Brandon Naruto, c'est ça, je le dis bien, Naruto?
Norato.
Norato.
C'est pas Naruto. En l'écrivant aussi, j'avais ces images-là là, de la fameuse BD. Comment on appelle ça?
Je sais pas, honnêtement, tu me perds. Des mangas,
c'est ça? Naruto, ouais, c'est ça. Naruto, ça, okay. C'est comme un manga.
C'est les jeunes qui aiment ça présentement ou je suis pas familier?
Non, ça, c'était à mon époque.
Moi, j'ai connu Dragon Balls. Là, donc,
ben, c'est similaire, ouais.
On salue les gens qui ont lu ça. Comment il a pris ça, Michael Hage, puis comment son entraîneur a pris ça de ne pas être invité par Équipe Canada pour le championnat mondial junior? Parce que là, disons-le, Dave Cameron et l'état-major d'Équipe Canada se sont fait critiquer au Canada, mais se font même critiquer aux États-Unis, autant au Michigan. Daniel Brière, cette semaine aussi, qui a parlé de
Jetruchenko, Oliver Bunk.
Qui a dit que c'est de la manière que les deux ont été utilisés, il n'y avait aucune chance pour eux d'avoir du succès. Age, lui, qui, tu l'as dit, est premier marqueur de la NCAA, on lui fait même pas un signe. Comment on a vécu ça?
Ouais, premier marqueur des joueurs de première année, spécifié pour pas qu'on... on va pas gonfler la balloune plus qu'elle l'est, mais... Michael Age est resté très, très...
Diplomate,
ouais, c'est ça, parce que Michael Age va avoir l'occasion de participer au Mondial Junior probablement l'an prochain avec l'équipe Canada, donc ne veut pas se mettre à dos la direction, quoiqu'elle devrait être différente, en tout cas on l'espère, mais du côté de son entraîneur, lui n'a rien à donner à Hockey Canada, ne doit rien à cette organisation-là, puis il m'a dit, tu sais, je suis très, très, très surpris qu'ils ne reçoivent même pas l'appel pour le camp de sélection, là. C'est même pas... On t'a retranché après le camp de sélection. On t'a même pas invité. Il dit, je veux pas exagérer, mais si Michael Hage joue dans la Ligue canadienne, c'est un gars de 150 points parce qu'il disait il est capable de dominer certaines portions du match dans la NCAA contre des gars plus vieux. Si tu le mets contre des gars de 16, 17, 18 ans, 19 ans dans la Ligue canadienne, ben c'est un joueur qui est très, très dominant. À 150 points, peut-être pas. Je pense que je veux pas exagérer. Peut-être qu'il a exagéré un peu.
Je pense qu'il n'y avait pas balancé exactement le même dans LHJMQ, là, ça serait difficile d'aller chercher 150 points.
T'as un Jordan Dumais qui s'est approché de ça dans les dernières années, tu sais, à son année 19 ans.
Il en manquait 10, il en avait fait 140.
Non, c'est ça. C'est gros, mais on comprend son propos. C'est un joueur qui aurait été dominant dans la Ligue canadienne, probablement qui aurait été parmi les meilleurs attaquants de cette équipe Canada-là à ce tournoi-là. Donc, il dit, moi, pour ma part, il n'y a aucun doute qu'il aurait dû être dans l'équipe. Puis, il a souligné au passage qu'il y avait plusieurs bons joueurs qui avaient été laissés de côté pour ce tournoi-là. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a été impressionné par la gestion, le plan de Hockey Canada au dernier mondial junior. Mais bon, Michael, là, je dis, c'est hors de mon contrôle. Puis, il s'en sert pas nécessairement comme motivation pour le reste de la saison. Il a dit, quand je mets le chandail de Michigan puis que je saute sur la patinoire du Yost Arena, qui est d'ailleurs c'est un arena avec beaucoup de cachets, les Children of Yost, qui sont le groupe de partisans de l'équipe, sont spectaculaires. Il y a eu des chants tout au long de la soirée. C'est une ambiance de carnaval. Surtout, je pense, c'était peut-être un peu biaisé, étant donné que c'était Michigan State qui était là. Il y avait une grosse rivalité, une belle ambiance. Mais il dit, quand je saute sur cette patinoire-là, j'ai pas besoin de plus de motivation. J'ai tout ce qu'il faut pour me motiver ici. Puis j'en doute pas, pour vrai, c'est vraiment un bel environnement, je pense, pour un espoir pour se développer.
Ouais, Yost Arena, c'est un des beaux de l'NCAA, avec peut-être le Ralph Engelstad Arena là, du côté du Dakota du Nord, là, mais c'est. Ça vaut à peine si vous êtes dans le coin de. Si vous êtes trompé, vous avez pris la 402 ou la 401 là, pour aller voir peut-être un match.
Puis, honnêtement, c'est une belle petite ville, beau centre-ville, des petits restos, beaucoup de bars. C'est vraiment une ville étudiante. Ouais, c'est je m'attendais pas à grand-chose parce que j'étais déjà allé à Plymouth au Michigan, puis ça, c'était assez tranquille. Mais du côté d'Ann Arbor, j'ai bien aimé l'ambiance. Je pense que si vous voulez aller avec des amis pour combiner un voyage, peut-être un match de football, un match de hockey, c'est un bel endroit pour faire ça.
Oui, il y a un petit stade de football à côté de 110 000 personnes. Tout petit. C'est juste le plus gros aux États-Unis.
Mm-hmm. Les gars, petite nouvelle de dernière minute. Au moment où on enregistre, mercredi, une heure avant un entraînement du Canadien, Owen Beck retourne avec le Rocket de Laval. Donc, après deux matchs, temps de jeu de 7-8 minutes. Et le Rocket jouera ce soir, donc probablement qu'on veut offrir un match à Owen Beck avec le Rocket à Laval. Et ça laisse l'impression que Michael Pezzetta sera de retour en uniforme pour la visite à Détroit.
Pour 4 minutes pour la visite à Détroit.
Pourvu. Honnêtement, je me sens mal pour lui parce que c'est tu peux. Tu sais, je veux dire, Pezzetta, on ne s'écrira rien. C'est pas le. C'est pas moins une Gretzky ou peu importe, mais quand tu joues si peu que ça, si peu souvent et si peu de temps de jeu, tu peux juste être trois enjambées en arrière de tout le monde, puis c'est là que tu te fais prendre, puis tu commets des pénalités parce que tu tentes d'en faire trop. Fait que je me sens mal pour lui. Guillaume, en terminant sur Michael Hage, la question, est-ce qu'on le voit justement avec Owen Beck chez le Rocket de Laval à la fin de la saison, ou est-ce qu'une autre année dans l'NCAA est peut-être plus préférable pour lui?
Son entraîneur, c'était assez clair. Tu ne l'as pas dit... Il l'a pas dit clairement, là, mais si on lisait entre les lignes, croit qu'une deuxième saison, ce serait bénéfique pour lui. Il a été l'entraîneur d'Adam Fantilli il y a 2 ans, qui est resté seulement une saison avant de faire le saut dans la Ligue nationale, mais il dit, tu sais, c'était différent. Adam Fantilli, il dit, c'était un homme parmi les enfants. Michael Hage, il dit, il est capable de produire, il a marqué de gros buts pour nous, mais il ne domine pas encore les matchs dans la NCAA. Puis là, il a donné l'exemple. Il dit Ryan Leonard, lui, à Boston College, domine les matchs. Lane Hudson, l'an dernier, avec BU, dominait les matchs.
Des joueurs de deuxième année, ça.
Exactement. Je pense qu'il faut prendre le temps. Rob Ramage disait la même chose. Il m'a dit, j'aime voir les joueurs conquérir, conquer en anglais, le niveau auquel il joue en ce moment avant de passer au prochain. Fait que je pense que le message, c'est qu'il n'y a pas de presse du côté de Michael Hage. On regarde la manière dont le Canadien joue en ce moment. Il n'y a pas nécessairement de place pour Michael Hage en ce moment. Puis, tu sais, je veux dire, faut
de toute façon, la
faut de l'expérience, faut ça, du puis... millage. Il n'y a
aucune urgence. Là.
C'est ça. Non, c'est ça.
C'est pas un sprint, c'est plus un marathon. Puis, si on retient aussi les paroles de Kent Hughes au bilan de mi-saison, Hughes disait que, bon, tranquillement, pas vite, le CH rentre dans une autre étape de sa phase de reconstruction. Puis dans le passé, on a rempli cette formation-là de jeunes joueurs avec les résultats qu'on connaît. Maintenant, les jeunes devront réellement gagner et mériter une place. Donc, il va y avoir une plus grande patience. Moi, je sens dire à 100% pas mal persuadé que Hage va retourner à Michigan la saison.
On peut le dire, je pense qu'on peut le dire à 95%. Là, tu sais, Rob Ramage avait un peu le même discours. Il disait, dans les dernières années, on l'a fait, on a utilisé la Ligue nationale comme une ligue de développement parce que c'est le contexte dans lequel on était. On n'avait pas vraiment le choix de donner la place aux jeunes parce que
c'est ça.
C'était eux qui formaient l'équipe. Mais il dit là, à l'avenir, je pense qu'on va le faire de moins en moins. On va attendre que les joueurs soient prêts avant de s'amener dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, ça indique au moins une deuxième saison pour Michael Hage à Michigan.
Surtout que l'an prochain, il va y avoir l'arrivée d'Ivan Demidov. On parle d'un ailier, c'est pas un centre, mais il y aura déjà un jeune attaquant de 19 ans dans l'uniforme du CH. Je ne crois pas qu'il va y en avoir deux.
Non, puis c'est pas le même niveau. Là,
non, je fais pas de comparaison, mais c'est juste pour dire, s'il y a une place...
Ouais.
Cette place-là va appartenir à Ivan Demidov.
Guillaume, je passe du coq à l'âne ce matin. T'as dit... Ben non, okay, je vais faire le lien. Je vais en faire un beau lien. Tes deux textes que tu as écrits avec Michael Hage, on peut lire ça sur le site de lnh.com. Autre chose qu'on peut lire à partir d'aujourd'hui sur le site de lnh.com, ton entrevue avec Samuel Poulin. On le sait, là, on est dans la thématique.
C'est pas une entrevue, Nick. Il a publié un message sur Instagram ce matin.
OK. Puis tu t'es inspiré de ce qu'il a écrit. OK, bon. Samuel Poulin.
Guillaume ne fait jamais d'entrevue avant 9h le matin.
Non,
ça serait. Okay. Surtout pas sur ces sujets-là. Je pense que ça aurait été compliqué ce matin. Mais non, c'est un message que Samuel Poulin a publié ce matin sur Instagram par rapport à la santé mentale. On le sait qu'il y a deux saisons, on avait pris une pause de 4 mois du hockey. Puis, tu sais, ça c'était resté un peu flou, voulait pas. Ouais. On l'avait vu, Jean-François et moi, au tournoi des recrues, je pense, en septembre, après sa pause. Puis, tu sais, contournait un peu le sujet, voulait pas vraiment entrer en détail sur ce qu'il avait eu à gérer personnellement. Mais là, ce matin, dans une vidéo de 5 minutes, explique de long en large les problèmes qu'il a eus. Puis, bon, on va commencer du début. Il dit j'ai perdu comme la passion du hockey. Juste aller à l'aréna, c'était compliqué pour moi. Parce que je pense qu'il commençait peut-être à sombrer dans une certaine dépression, quelque chose comme ça. Puis il dit ça comme la marmite a sauté après une première période d'un match à Hershey. Il se sentait mal. Il dit j'étais dans un brouillard. Il y avait plus rien qui fonctionnait. Il dit je suis sorti de la chambre, je suis allé prendre l'air. Finalement, j'ai décidé d'en parler avec un thérapeute de l'équipe. Puis il dit j'ai éclaté en sanglots pendant 30 minutes de façon incontrôlable. Il a gardé tout ça en dedans. Il a un peu mal géré des événements qui sont arrivés dans sa vie entre 2019 puis 2022 qu'il disait, puis ça a fait un trop-plein jusqu'au point où il ne pouvait plus performer, ne pouvait plus jouer au hockey, s'entraîner, avait perdu la motivation pour tout ça. Après ça, il a pris une pause de 4 mois, il a consulté un psychothérapeute, puis tu sais, il dit, il sauve vraiment comme à 100% dans sa vidéo, puis il dit j'ai eu des décès dans ma famille, j'ai eu des mises en quarantaine qu'on appelait dans le temps de la pandémie. Là.
Ouais,
il dit, j'en ai 6-7 quarantaines, dont une dans une chambre d'hôtel que j'ai pas pu parler à personne pendant une dizaine de jours. Rupture amoureuse, un accident qu'il dit qui a été traumatisant aussi, Il dit « Je m'en foussais dans le hockey, puis je rejetais ça du revers de la main au lieu de le gérer. » Puis il dit ça a fait un trop-plein à un moment donné, puis ça a terminé avec une crise de panique, une pause de 4 mois du hockey. Puis il a décidé d'en parler aujourd'hui parce qu'on sait, hier c'était la soirée le hockey en parle au Centre Bell. Je pense qu'à travers la Ligue, c'est une initiative qui incite les joueurs à parler de la santé mentale, puis les partisans à justement s'ouvrir à leurs proches, à leurs amis, leurs familles, des professionnels pour aller chercher de l'aide justement. Puis il dit, moi, je prends la parole ce matin pour aider les autres justement à le faire, puis à montrer que c'est correct d'aller chercher de l'aide, puis qu'il n'y a rien de gênant ou d'humiliant à ça. Puis il dit aussi, lui, il refusait d'aller chercher de l'aide par crainte d'être vu comme un lâche, comme un faible par ses coéquipiers, par le reste de l'équipe. Puis il dit, c'était des scénarios que je me faisais dans ma tête, puis je voyais ça trop gros. Quand il s'est ouvert, l'équipe a été super ouverte à lui donner le temps justement de régler ses choses, puis après ça de revenir dans l'organisation. Donc c'est une belle prise de parole ce matin. Je trouve que c'est nécessaire d'avoir des histoires comme ça, parce que c'est bien beau d'avoir des joueurs qui disent hey, pas peur d'aller demander de l'aide, mais s'ils l'ont jamais vécu eux-mêmes, c'est un beau message, mais il y a rien en dessous. Tandis que Samuel Poulin, lui, l'a vécu, puis le message qu'il transmet ce matin, je trouvais ça quand même inspirant.
Puis c'est un message qui peut, comme Guillaume disait, qui peut aider d'autres jeunes joueurs dans la même situation. Aujourd'hui, c'est Samuel Poulin. Il y a quelques années, c'était Vincent Desharnais qui s'était ouvert sur ses problèmes d'anxiété qui avaient mené à une grave dépression. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les histoires de Vincent Desharnais puis Samuel Poulin. Vincent Desharnais, je me souviens d'une conversation, il me disait, c'est en 2019-2020, il se retrouvait à Bakersfield dans la Ligue américaine. Puis comme Poulin avait peut-être envahi par un sentiment de honte, tu veux pas en parler à des coéquipiers, comme quoi, écoute, mentalement, ça va pas bien. C'est un grand, gros bonhomme, Vincent Desharnais, puis il disait, c'est sur une table avec une ostéopathe qui a fini par s'ouvrir, déballer son sac, puis finalement, le lendemain ou le surlendemain, maman faisait le voyage en Californie pour aller lui parler. Donc, un rappel que peu importe le statut, parler, c'est pas une faiblesse. Se confier, ça reste souvent la chose la plus intelligente à faire.
Ouais, très vrai, très vrai. Les gars, il reste à peu près une dizaine, quinzaine de minutes maximum, parce que de toute façon, JF, faut que tu sois à la pratique des Canadiens dans pas très long. Je vous amène sur autre chose. On fait un petit tour rapide de l'actualité, mais on va le faire sous le format vrai ou faux. Je vous donne un sujet, je vous pose une question. Vous me répondez vrai ou faux à cette question-là, puis on en discute pendant un petit 2 minutes chrono. J'allais dire comme à la boxe, puis c'était des rounds de 3 minutes, mais peu importe. Vous avez vu à l'œuvre les Maple Leafs samedi. Ma question, les Maple Leafs vont terminer au sommet de la section de l'Atlantique, ce qui n'est pas arrivé, écoutez, mis à part la fameuse année de COVID, là, la section canadienne là, où les équipes étaient chamboulées, là, mais les Maple Leafs n'ont pas terminé premier de leur section depuis 99-2000. Est-ce que cette année, Toronto, qui veut gagner la Coupe Stanley, mais qui n'a pas eu son sort nécessairement de ses mains en terminant en premier. Est-ce que cette année, on va réussir à l'avoir, selon vous?
Moi, je dis vrai, parce que Auston Matthews revient, il est en santé. Et terminer au sommet d'une division, ça ne veut rien dire une fois que les séries s'ouvrent. Donc, je dis vrai pour le Toronto.
Moi, j'irais avec faux, parce qu'on a les champions en titre de la Coupe Stanley qui leur soufflent dans le cou. Bon, ça n'a pas été jusqu'à maintenant. C'est une excellente saison du côté des Panthers. On n'a pas vu l'équipe dominante de l'an dernier mais je veux dire, une équipe qui a de l'expérience, qui vient de gagner la Coupe Stanley, ça ne m'étonnerait pas que les Panthers ouvrent la machine en deuxième moitié puis qu'on commence à aligner les victoires. Puis j'ai l'impression que si on compare les deux équipes, il y a peut-être un petit peu plus de profondeur du côté des Panthers, puis on sait comment gagner, on sait comment justement appuyer sur l'accélérateur au bon moment. Donc, je dis faux pour les Leafs au premier rang de l'Atlantique.
Prochaine question. Belle victoire des Capitals hier, 3-2 contre les finalistes de la Coupe Stanley, les Oilers d'Edmonton. Malgré un nachos qui a été lancé sur la glace et qui a dérangé un peu Logan Thompson, c'est une première, hein? C'est-tu pas beau le hockey, hein? Quand on en est rendu à une passe pour le nachos. Mais bon, présentement, les Capitals, ils sont premiers de la section métropolitaine, 69 points. Quand on regarde le classement général, ils sont premiers aussi de la Ligue. Est-ce que, selon vous, les Capitals, vrai ou faux, sont les favoris pour remporter la Coupe Stanley?
Moi, je vais pour faux. c'est une belle histoire, encore une fois, en saison. C'est une équipe qui a réussi. Marc Bergevin disait « reset on the fly ».
Oui.
Bon, on félicite les Caps. Je suis pas convaincu.
Il va falloir que le titre DG de l'année aille du côté de Washington cette année.
Oui, ouais, c'est Patrick et McLellan, là, ouais. le VP hockey. Mais je crois pas que le talent brut de cette équipe est assez fort pour rêver à une Coupe Stanley. J'aime le modelage, l'ensemble de l'équipe, mais je réponds faux à ton affirmation.
Même chose pour moi. Je pense que JF a tout dit. Là, c'est une belle équipe de saison régulière, mais j'ai la difficulté à les voir franchir trois rondes de série puis aller gagner la Coupe Stanley. C'est... Je sais pas, on dirait que c'est une saison, tu sais, John Cooper le disait hier, il n'y a pas de grosse équipe, là, tu sais, oui, les Capitals ont réussi à se distancer un peu au classement, là, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un gros favori sur lequel on va miser tous nos œufs, là, cette année. Puis je pense pas que les... En tout cas, j'attends d'en voir un peu plus de la part des Capitals avant de m'avancer sur la Coupe Stanley parce que ça me semble un peu gros.
À vous entendre, vous les avez même pas dans votre top 3, là.
Écoute, c'est une bonne équipe, mais tu sais, il y a le bon vieux cliché, tu dois apprendre à perdre en série avant de rêver à gagner. C'est plus l'équipe qui a gagné la Coupe il y a quelques années, là, donc...
Mais il y a encore plusieurs éléments de cette équipe-là.
Oui, Ovechkin, Tom Wilson, John Carlson. Mais bon, dans le filet, on parle de Logan Thompson, Charlie Lindgren. Les deux connaissent de bonnes saisons. T'as Strom comme centre. Connor McMichael, Pierre-Luc Dubois connaissent de belles saisons. Je me répète, pour moi, pour l'instant, c'est une histoire de saison régulière.
Bon, parfait. La Ligue nationale de hockey a une initiative là, depuis une semaine et demie environ, deux semaines. L'équipe du quart du siècle 2000-2025 pour chaque équipe qui ont été première et deuxième équipe, donc qui ont été les 12 meilleurs joueurs pour chaque équipe durant les 25 dernières années. Celle des Canadiens a été dévoilée la semaine dernière. Et on retrouve sur celle-ci, sur la première équipe, on retrouve Sako Koivu, Alex Kovalev, Tomas Plekanec, Andrei Markov, Shea Weber et Carey Price. Alors que sur la deuxième, ben c'est Brendan Gallagher, Max Pacioretty, Nick Suzuki, Sheldon Surrey, Piqué Subban et José Théodore. Ma question, messieurs, vrai ou faux, c'est Piqué Subban qui aurait dû être sur la première équipe d'étoiles des Canadiens?
Là, tu cherches du débat, là.
Ah oui, faites-vous plaisir.
Mais... Ben juste pour le fait que Plekanec a souligné le fait que Piqué Subban est avec son bon ami Brendan Gallagher sur la deuxième équipe, je pense que je le laisserai sur la deuxième. Juste pour cette raison-là, mais c'est Markov et Weber hein, sur la première.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est difficile à déloger ce duo-là. T'sais, autant Piqué était spectaculaire puis soulevait les passions à Montréal, autant au niveau... talent défensif. T'sais, autant t'sais, Weber et Markov étaient aussi capables de générer de l'attaque de façon différente, mais ces deux défenseurs qui sont difficiles à déloger, selon moi, je pense que Piqué a sa place parmi les étoiles des Canadiens des 25 dernières années, mais je pense que la deuxième équipe lui convient peut-être un petit peu mieux.
GF.
Moi, je vais y aller comme Guillaume. Écoute, c'est probablement l'unique endroit où il y avait un débat.
Ouais.
Subban, Weber, on s'entend. Andrei Markov mérite amplement sa place au sein de la première équipe. Pour le jeu d'ensemble, le caractère, peut-être uniquement aussi par rapport au fait que la finale de la Coupe Stanley, c'était avec Shea Weber. Mm-hmm. Mais Subban en série est un défenseur extraordinaire. Faut pas lui enlever là, contre les Bruins de Boston. Non, non. Il a connu des parcours en série. Écoute, pour moi, c'est un pile ou face. Je crois pas qu'il y a une mauvaise réponse. J'ai pas de problème à avoir chez Weber, comme j'aurais pas eu de problème à avoir piqué Subban. C'est une réponse qui est plate. J'y vais dans le gris. Je vais pas dans une grosse opinion forte.
Je pense juste que piqué Subban... Si c'était la carrière au complet des 25 dernières années, chez Weber avant Subban, 100 fois. Mais l'impact à Montréal, je pense que Piqué Subban a eu un plus gros impact que chez Weber. On parle de la Coupe Stanley. Écoutez, bon vieux Chris Kreider qui ne rentre pas en contact avec Carey Price, puis peut-être bien qu'il y a une, autre, une finale en 2014 pour les Canadiens, on ne le saura jamais. Il me semble que Piqué Subin a eu un plus gros impact, mais bon, comme tu dis, GF, c'était la seule place où il y avait un débat. Prochaine question. Écoutez, Predators de Nashville, d'ailleurs, belle victoire hier. On tirait derrière 5-1 contre les Sharks de San Jose. On l'a emporté 7-5. Cette équipe-là semble s'être réveillée quand même quelque peu depuis, je regardais, depuis la mi-décembre. Là, on a une fiche de... On a une fiche de je l'ai perdu. Ah, voilà. 9-6-1. Donc, ça se replace. Mais bon, on va probablement rater les séries éliminatoires. Attendez-vous à quelques transactions de ce côté-là. Mais Steven Stamkos a 9 buts dans ses 16 derniers matchs. Il fonctionne à un rythme d'un point par match. Troisième meilleur marqueur de son équipe, d'ailleurs Philip Forsberg, qui a 26 points en 16 matchs, et Jonathan Marchessault, 21 points en 16 parties aussi. Quand on connaît l'historique de Steven Stamkos, quand on connaît son lancer, ce qu'il est capable de faire, est-ce que... Bon, on le sait, Stamkos a été ignoré pour la confrontation des quatre nations avec Équipe Canada, mais est-ce qu'avec son réveil que vous voyez présentement, il va être avec Équipe Canada aux Jeux olympiques l'année prochaine?
Ben, c'est un vrai ou faux.
Moi, c'est un vrai ou faux.
Sans vrai ou faux dans la question, mais moi, j'ai...
Steven Stamkos va être avec l'équipe Canada aux Olympiques.
Moi, je réponds faux. Steven Stamkos, pour obtenir un poste avec l'équipe Canada, devrait patiner au sein de l'un des deux premiers trios. Stamkos n'a plus la vitesse d'antan, connu une formidable carrière. Mais à mon avis, tu dois regarder vers l'avenir, non pas vers le passé. Donc, je dis non à Stamkos aux Jeux olympiques.
Ouais, faux dans mon cas aussi. Puis je pense que, tu sais, ce serait très, très surprenant que dans une audition en vue des Jeux olympiques, l'état-major d'équipe Canada le laisse de côté. Puis après ça, un an plus tard, décide de dire hey, on va prendre le gars de 35 ans qui n'était pas là aux quatre nations. Puis qui, oui, peut-être connaît des bons moments, mais je pense que. Malheureusement, on va miser peut-être un peu plus sur la jeunesse, la rapidité et tout ça que sur un vieux routier avec l'expérience.
Droitier pour droitier, plus de chances d'avoir Connor Bedard que Steven Stamkos en Italie.
Surtout que ça va être une patinoire internationale, donc exploiter la vitesse va peut-être être un élément plus important pour les décideurs de Hockey Canada. En terminant, messieurs, dernière question. Depuis... Le 5 janvier, les Rangers de New York sont l'équipe qui a amassé le plus de points dans la Ligue nationale. 6 victoires, 3 défaites en prolongation, 15 points en 9 matchs. Je vous invite à regarder le classement si vous ne l'avez pas devant vous. On est présentement dans la course au 4e mars. Là, on est 5e, je vais vous sortir officiellement dans l'Est. Là. On est 11e dans l'Est avec 50 points en 47 matchs. Vrai ou faux? Les Rangers vont être des séries éliminatoires, mais non pas comme équipe repêchée, mais on va aller chercher les Devils du New Jersey qui viennent de perdre 8 de leurs dernières parties, qui ont 58 points en 49 matchs. Donc, les Rangers ont 2 matchs en main sur les Devils.
Moi, je dirais vrai.
Ah, oh, vas-y, Guillaume. Vas-y. C'est bon, on n'a pas la même réponse.
Non, moi, je dirais vrai parce que les Rangers, comme tu disais, ça semble s'être replacé. On en a parlé dans un balado il y a quelques semaines. T'sais, c'est une équipe qui, sur papier, est supposée être dominante puis être au sommet de sa section. Je pense que du moment qu'on a tourné le coin, ben là, après ça, on va juste se mettre à mieux jouer puis à aligner les victoires. Quoique, je sais probablement que Jean-François va parler du dernier match à Montréal. Moi, j'ai vraiment pas été impressionné par les Rangers à leur passage ici. Tu sais, on bousillait 4 avances d'un but en troisième période. Peter Laviolette est allé d'une décision curieuse de défendre, de jouer la trappe avec un but d'avance. Ça a été difficile pour les Rangers à Montréal. On est allé chercher un point pareil, mais non, je dirais vrai. T'sais, j'ai quand même confiance en cette équipe-là sur papier. Puis j'ai l'impression qu'on est en train de monter la pente tranquillement. Puis comme tu disais, les Devils connaissent peut-être un petit peu plus de difficultés. Donc, je vois pas ça comme un défi impossible.
Moi, je vais pour faux. Je trouve que la marche est trop haute pour parler des Devils. L'espoir pour les Rangers, une participation aux séries, résiderait beaucoup plus avec les équipes repêchées. Donc, venir menacer pour l'instant Montréal, Ottawa, Columbus, Boston et compagnie. Guillaume, tu parlais du match à Montréal. Écoute, de voir les Rangers qui fermaient le jeu avec une avance, c'était le 1-3-1, plus aucune pression. J'ai pas aimé du tout cette rencontre. De voir aussi Capo Caco qui connaît de bons moments à Seattle, ça me fait sourire. Will Borgen qui a connu un match, ma foi, difficile, pénible contre le CH.
Sauvé un but contre Patrick Laine.
Oui, il a sauvé un but, mais il s'est mis dans le trouble à multiples reprises. Donc, je pense que c'est une équipe qui est en déroute. S'il y a un espoir, Shesterkin à ses deux derniers matchs, c'est deux jeux blancs. Shesterkin peut pratiquement à lui seul transporter cette équipe. Mais pour participer aux séries, Drury et les Rangers devront être actifs. Je ne crois pas que l'équipe, le 23 actuel des Rangers, est un 23 de série.
Les gars, merci d'avoir été là sur ce nouvel épisode de La Tasse de Café. Je vous laisse partir à vos occupations. JF, tu t'en vas à l'entraînement des Canadiens. On va pouvoir lire ton résumé sur le site de lnh.com aujourd'hui. Donc, dans le fond, au moment où le balado va être disponible, ça va déjà être là sur le site. Les gars, on peut lire tous vos textes d'ailleurs sur le site. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Comme je dis toujours, ben, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Blue Sky aussi, si vous voulez voir nos tout nouveaux comptes qui ont été ajoutés dans les derniers mois. Merci les gars, encore une fois.
Un plaisir.
À bientôt.
À la prochaine. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.